Bonjour à tous et bienvenue dans Tous au poste sur Studio ZEF. Et dans cette nouvelle émission, on part pour Éthique, l'école d'enseignement des techniques de l'image et de communication de Blois, où avait lieu le 1er février la conférence de Clément Renaud sur quel avenir pour l'imagerie visuelle.
Alors bonjour, je suis Clément Renaud. Je suis chercheur, développeur et je travaille régulièrement autour de la question des écritures numériques. Donc aujourd'hui, je suis à Blois pour une conférence à l'école éthique. Et donc, je vais présenter un peu. Je vais présenter quelque chose d'assez général et puis pas mal d'exemples autour de la question du numérique, des données et puis de la visualisation.
On est à l'avant-dernière conférence. Là, on est sur une conférence qui va vraiment parler du numérique beaucoup plus spécifiquement que les autres fois. Et je vous présente Clément Renaud, qui est chercheur et, en communication et design. Il va un petit peu mieux que moi vous expliquer ce qu'il fait. Il a un champ d'activité très très large. De toutes les écritures visuelles qu'on peut avoir sur le net et par le numérique.
Bon, alors bonjour, bonjour tout le monde. Donc moi je suis chercheur, je suis aussi développeur. Vous savez, j'écris du code, des applications. Je travaille aujourd'hui donc entre les universités, aussi les entreprises, et puis j'ai habité plusieurs années en Chine. Enfin, donc voilà pour un peu moi, mon parcours. Ce soir, alors, finalement, aujourd'hui, moi, je vais essayer de faire quelque chose d'assez, général. L'idée, c'est de discuter un peu du numérique, comme a présenté Cathy. Moi, c'est mon domaine de travail, c'est à la fois les usages, comment les gens utilisent les ordinateurs, mais aussi qu'est-ce que ça fait aux gens, quoi ça change la société, et puis qu'est-ce que ça change dans notre façon de lire et d'écrire. Donc voilà, ici on est dans une école de design, si j'ai bien suivi, et donc on est donc avec des graphistes, des gens qui vont être graphistes. L'idée, c'est de se poser aussi la question de comment on lit l'information, de comment on la crée. Je vais montrer encore une fois une série d'exemples et puis un peu des réflexions sur un travail qui est en cours, qui est un travail de recherche que moi je mène, autour de, en gros, essayer de replacer l'écriture numérique dans l'histoire d'écriture. Donc on va voir un peu ça, bon, en général dans la vie, mais dans le numérique en particulier. Finalement, c'est un domaine qui est un gros domaine industriel en ce moment. Il y a énormément de marketing, il y a énormément de mots-clés. Vous avez dû entendre dans la télé ou dans la radio, le big data, le cloud, toutes sortes de mots, le data visualization, open data, etc. Il y a plein de mots comme ça qui font le tour tout le temps dans la radio. Et notamment toute la question de l'innovation aussi, du nouveau, de la nouveauté de cette technologie, des nouvelles technologies comme on les appelle, etc. Donc là, l'idée, c'est plus en montrant un panorama et en essayant de rediscuter un peu toutes ces questions, ces concepts, de se réinterroger un peu sur tous ces mots et puis comment après vous pouvez les utiliser, ça c'est ce qu'on verra plus tard. Donc pour débuter, juste pour discuter de la question des écritures, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc voilà une... L'écriture, donc, à considérer, quand je vais en parler, c'est comme disait un auteur qui s'appelle Goody, un anthropologue, il disait, voilà, l'écriture, c'est une technologie de l'intellect. C'est quelque chose qui nous permet de penser, c'est un support pour réfléchir. Et donc, voilà une brique technologique, comme on dit. Donc, une tablette d'argile, c'est quelque chose qui date d'il y a environ 5 millénaires, qui était en Mésopotamie. Et finalement, qui servait à l'époque déjà à enregistrer des informations. Qu'on appelle aujourd'hui en général des données. Okay, donc c'était essentiellement des données marchandes. Ici, vous avez quelque chose qui s'appelle une vente. Ça, c'est un compte-rendu d'une série de ventes. Okay, et donc, avec le fil de l'histoire humaine, vous savez bien que l'écriture, ça a quand même un peu évolué. Et aujourd'hui, quelques siècles plus tard, on en est à ça. C'est un data center, d'accord ? Ce qu'on appelle un data center. Finalement, ça c'est Google, si vous voulez. Ouais, donc c'est un data center qui appartient à Google. Et donc ça c'est ce que vous voyez ici c'est des séries d'ordinateurs. Et donc ils servent à chaque fois que vous tapez une requête sur Google, votre ordinateur il envoie un message en gros à cet endroit ou à un endroit similaire qui vous renvoie une réponse. Donc ça c'est une des premières choses que je voulais vous montrer un peu comme ça dans cette cette dynamique historique d'une évolution de l'écriture. Dans le fond, dans chacun de ces ordinateurs, vous avez plein d'informations qui sont rangées. Donc ça peut être des pages de texte, ça peut être vos emails, hein, votre calendrier, enfin toutes sortes de choses qui sont rangées dedans. Et une première chose qui me paraît très importante de comprendre quand on parle du numérique, c'est que c'est, et voilà de quoi est constitué le cloud. Ça, c'est le corps de Google. Donc pour faire marcher une machine comme Google, disons qu'on ne marche pas sur un nuage, on a des énormes frigos de cette taille, okay, qui sont des endroits stratégiques, qui sont situés dans plein de régions du monde, et dedans où il y a des milliers d'ordinateurs qui tournent en boucle. Pour vous dire, Google aujourd'hui, dans plusieurs de ses data centers, il y a une usine qui produit des ordinateurs et qui les branche directement dans les data centers. Puisqu'il y a vous savez qu'il y a une croissance exponentielle du web, chaque seconde vous envoyez un message, il est stocké quelque part, donc dans un disque, et ce disque c'est de la roche. Pour vous expliquer un petit peu, pour vous donner un peu la matérialité en fait de l'écriture numérique, puisqu'on a souvent tendance à croire que c'est une écriture immatérielle, on a eu plein de discours sur la perte d'espace, etc., des repères avec l'Internet, mais finalement on est en plein dans quelque chose de très très solide, puisque un disque dur ou même un processeur, c'est fait avec du sable, hein, c'est un processus qui s'appelle Sandcasting, qui est fait à base de sable, qui est transformé en silicone, qui est transformé en processeur. Et donc tout un tas d'autres minerais, des minerais rares pour les écrans, le plastique c'est du pétrole, etc., etc. Donc vous avez toute une matérialité en fait, quelque chose de très très dense dans l'écriture numérique, qui même si elle ne vous apparaît pas quand vous écrivez sur votre téléphone, finalement c'est ça la base de l'écriture. Un exemple, hein, donc un morceau de processeur qui est en cours de fabrication, d'accord, dans un tas de sable, finalement les deux étapes qui mènent à la production d'un processeur.
Alors moi à l'origine j'ai fait une école des beaux-arts, et après j'ai arrêté rapidement, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à écrire sur internet. Et donc je me suis retrouvé avec le besoin de faire des sites. Pendant un moment, je voulais être journaliste, et puis je me rendais compte que c'était pas facile d'être publié, donc j'ai commencé à faire des sites, des blogs et tout ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai appris à développer. Comme j'étais toujours intéressé par le côté graphique, j'avais fait pas mal de dessins et de choses comme ça, j'ai commencé à faire du dessin sur mon ordinateur, on va dire, sur Internet aussi, à l'époque avec Flash. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai continué à creuser, et puis voilà quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, voilà, à la fois dans la partie graphique et puis dans la partie écriture justement. Finalement j'étais à l'école après mon bac sur Beaux-Arts, et puis j'étais assez déçu par l'enseignement, l'ambiance générale, et puis je me projetais pas trop en tant qu'artiste, on va dire. Donc j'ai préféré, et puis j'étais toujours intéressé par la question d'information, par justement toutes les technologies aussi qui changeaient, voilà, les transformations, des discussions autour de la société, etc. Et donc voilà, ça, le journalisme, ça m'intéressait bien. Ça m'est passé aussi, puisqu'après j'ai pas été journaliste. Enfin, j'ai toujours continué à écrire pour des magazines, j'écris toujours pour des magazines, mais ça n'a jamais été mon métier. Et finalement, donc j'ai essayé un peu comme ça, les beaux-arts, le journalisme, et après je me suis lancé plus dans la recherche.
Une fois qu'on est parti dans la question d'écriture, on a l'autre question qui est corollaire, qui est celle de la lecture. Oui. Donc c'est la façon dont on lit toutes ces informations. Donc bien sûr, vous avez vu à l'instant ce data center. Comme je vous disais, il y a donc cette énorme masse de données. Il y en a des milliers et des milliers comme ça sur Terre aujourd'hui. Donc il y a des quantités d'informations, tout le monde le sait. Hein. Vous connaissez sûrement l'enfer de la notification. La petite chose qui sonne tout le temps pour vous dire « Tiens, une nouvelle information arrive, une nouvelle, etc. etc. » Donc, je voulais vous parler d'un petit objet qui, moi, m'a beaucoup intéressé ces dernières années, qui sont les mèmes Internet. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, pour faire simple, hein, c'est des petites blagues, d'accord ? Tous les gens qui ont en tout cas qui sont sur un réseau social, je pense, connaissent ces trucs. C'est des blagues qui passent, qui tournent sur Internet, qui circulent, etc., etc., et qui circulent en fait dans plein de directions. Là, j'ai mis un petit exemple, donc je vais quand même vous le montrer. Voilà, donc ça. Donc c'est un petit chat qui circule comme ça sur l'Internet. Donc ça, c'est une toute petite boucle en fait de quelques secondes, hein, qui tourne en boucle, d'accord, pendant des heures et des heures et des heures, etc. Donc c'est un truc qui a fait un énorme buzz, comme on dit sur Internet, qui a été recopié, détourné, puis recréé, etc., etc. Donc finalement, qui a occupé, je dirais, des millions de personnes pendant des heures, des milliers d'heures, d'accord ? Qui a pris des milliards d'heures, même. Et donc, moi, si vous voulez, je me suis interrogé, en fait, sur la façon dont tous ces petits morceaux de temps passé ils contribuent à écrire cette grosse masse d'informations. Et donc, notamment, moi, je me suis interrogé sur la façon dont les informations ont circulé sur Internet. Oui ? Je me suis dit, mais attendez, mais tel message... parce que vous voyez une petite photo de chat comme ça, une petite blague de chat, elle circule auprès de millions de personnes selon des modèles qu'en fait on ne connaît pas vraiment. Tous les gens cliquent dans tous les sens, donc ça écrit des trucs dans des machines qui les reproduisent, qui elles sont envoyées aux quatre coins de la planète, etc. On en va reparler, mais pour le graphisme, ou en tout cas pour l'information et les questions autour de la communication, c'est important de comprendre que, bah, en fait, quand vous avez une série d'informations, l'idée c'est d'en proposer une lecture qui peut être des fois générale. Surtout dans un monde aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, comme on en a parlé juste avant, où il y a finalement beaucoup trop d'informations. Hi, my name is Afro. What's up, y'all? I am a literal, lyrical, little nigga with an ear full of pyramid, sheer, interfered, clear, middleman, flowing active, coping out with the coke bag, hold back, flow chance, shows growing in advance, knowing the fast, blowing the past, hoping and coping and knowing the dance, flowing and roaming and leaving and sober to open the beat, the slow and the stand. Tokyo monster, Godzilla rocking, knocking, illa stomping on the killer marker, fond of somber, cocky villain with his armor, scriptures twist the picture, ripping, swiveling in his leather, in the image, killing all the minutes, sipping with your mama in the office, kicking on a liver, cinnamon bitches, dropping titty zombies over the city, posting ovaries in them, stirring the soup. First verse, earning a loot, earn worse words, you're a doofus. Hold out, roll for roll town, lower pound, sure mound. White cheesy people like you, full house Mike. Seeing evil, even bleeding, sheep are rolling down. Even Stevens dreaming of meeting the master, that's KRS. Rap attack, lead the rest, half ass, beat a bet. Matter of fact, I'm laughing and I'm stacking all the head. I'm feeling so groovy now, Afro's slow, fuck your head up. Let's begin it like this, the definition of a rap flow. I'ma reinvent it like this. I'm feeling so groovy now, Afro's slow, fuck your head up. Let's begin it like this, the definition of a rap flow. I'ma reinvent it like this. Medicine, eminent, feminine, sentimental, with edges of lead and metal, settled and envisioned. Listen to Ed, a minimal, letting them rip it a little bit, sending a villain, I'm feeling a little bit envy, in a bit ending with a heavy rhythm, ascending rhythm and training, lazy, raising amazing aces, the Asian faces, stay your lane in the rapist, caving, laid in the safe havens. Master is the hazardous, half magical, black kid stabbed and catapult, rap fashionable, I'm half of animal slash cannibalistic, aneurysm trapped in the mandible, rapping wisdom in a land of old. MC, Rock him taught me to grab the microphone and slap the mighty holes or try to pry you from my snotty nose. Ooh. I am on the word of savior, robbing all the virgin players, calling urban betrayers to swerving lies. I'm in the urge for learning of the maker, serving a murderous rage, a sermon and burning it with affirmative data, earning the wit, burning the matches. Ha. 16-year-old kid murdering burdens, asserting the damage. Ha. Motherfucker, you don't understand. Kick you in the head like all Ray did the Macklemore, legend never dies. Stop phasing out, avoid that annoying. So groovy now, Afro's slow, fuck your head up. Hey. Let's begin it like this, the definition of a rap flow. I'ma reinvent it like this. I'm feeling so groovy now. Let's begin it like this, the definition of a rap flow. I'ma reinvent it like this. Nigga, the follow me, get him a niggas, I know what around. I'm sucking the suckers, I'm putting my gas on the man, and I'm making you run it, I'm better be running the track. Oh, that's something that I had from the brain. It's apple to tame a chap of apple, get him a tad of the same as apple to tame and tackle your frame in the batter, the same in the top of a flame like a phantom. I be walking through walls, talking a lot. Yeah, you niggas coughing a lot. Who wanna look at you niggas in the open, I'm leaving your body in the parking lot.
Vous venez d'écouter Definition of Rap Flow de Afro et vous assistez actuellement sur Studio Zef à la conférence de Clément Renaud qui a eu lieu à Éthique et qui portait sur Quel avenir pour l'imagerie visuelle.
Tout ça pour vous parler aussi d'un concept qui me semble assez central pour les gens qui travaillent aujourd'hui dans la communication ou en tout cas qui sont amenés à faire des choses que les gens vont regarder. Mais même plus généralement pour tout ce qui concerne nos vies aujourd'hui, c'est cette idée d'une économie de l'attention. Alors l'idée derrière ce concept d'économie de l'attention, c'est juste que, en fait, c'est là où se joue aujourd'hui, par exemple, le marché du web. L'économie de l'attention, c'est votre temps de cerveau disponible, j'ai envie de dire. C'est l'idée, vous saviez, qu'avait dit le patron de TF1, avait employé cette expression, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une économie autour de la captation de votre attention, d'accord ? Notamment en ce moment. J'essaie de capter votre attention, mais ce que je veux dire, c'est que quotidiennement, quand vous savez, là, justement, je parlais tout à l'heure des notifications, hein, des téléphones qui sonnent, etc., etc. C'est une chose qui devient en fait un peu la base fondamentale, la façon dont on conçoit tous les médias. C'est-à-dire que vous avez tellement d'informations qui circulent qu'il faut que vous soyez capable de capter l'intention des gens. Et donc ça devient quelque chose de primordial. C'est ce qu'on appelle, en anglais, vous savez, ils disent, pour chiffrer par exemple les valeurs, pour chiffrer la valeur quand vous, pour les compagnies comme Facebook, etc., c'est ce que vous appelez eyeball, okay, les globes oculaires, d'accord ? Vous vendez vous voulez des globes oculaires, comme ça après vous les vendez. C'est le principe de la publicité. Donc par exemple Facebook, vous le savez, pour gagner de l'argent, d'accord ? C'est en comptant le nombre de temps que vous passez à regarder votre page, qu'ils peuvent vendre ça à quelqu'un, etc. Donc tout ce concept d'une économie de l'attention, c'est aussi, c'est un concept qui n'est pas, c'est pas une économie chiffrée aujourd'hui. Enfin, c'est une économie qui se chiffre, forcément, a posteriori, mais c'est plus un concept général pour essayer d'imaginer notre rapport à l'information, finalement, et au temps dans cette information, quoi, aussi. Et notamment pour tous les étudiants, pour tous les gens qui sont amenés à travailler, à concevoir des choses, et avec le but que les gens les regardent. C'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, oui, parce que tout le monde a... Vous imaginez bien que tout le monde peut passer 24 heures sur 24 devant un écran, et qu'en plus, il y a tout un tas d'activités qu'il faut faire dans sa vie, en plus de regarder des informations, consulter, lire. Et donc, c'est là où je rejoins la question. Hein. Tout ça pour vous parler... Après, vous avez parlé de l'écriture, vous parlez de la lecture aussi, de la façon dont on lit aujourd'hui, dont on lit ces informations, qui est comme ça, d'accord ? Qui est dans un flot continu d'informations, dans une économie de l'attention très... concurrentielle et compétitive, un peu différemment. En fait, le propos de cet article de recherche, c'était de comprendre quels sont les contenus qui marchent le mieux, d'accord ? Est-ce que les contenus ils marchent le mieux quand ils sont viraux, ou alors est-ce qu'ils marchent le mieux quand ils sont diffusés, lobotomie avec 15 posts par jour, un traquage médiatique, etc. Et finalement, la conclusion de ce papier, donc il y a un long travail de recherche qui a été effectué, c'est de dire, bon, bah, finalement, en fait, le contenu importe peu, ce qui importe, c'est l'heure à laquelle les gens le regardent. Oui. C'est là où vraiment il y a une différence. Donc c'est le fait d'être présent à cette heure-là, c'est le fait d'être présent à cette heure-là sur ce canal-là, etc., etc. Bon, c'est un constat un peu triste, mais voilà, enfin, c'est pour vous dire un peu l'état de ces réflexions. Donc c'est ce petit mème comme ça, cette petite blague, qui renvoie justement à tout quelque chose de culturel. Hein. Et donc tout ça pour dire que c'est dans cette façon d'écrire, dans toute cette façon de construire des blagues et des contenus pour l'Internet, et notamment dans ce qu'on a vu dans cette économie de l'attention, etc., concurrentielle, c'est faire appel toujours à d'autres références, d'accord ? Vous allez toujours être en train de... Dès que vous concevez quelque chose, dès que vous allez concevoir, dessiner quelque chose, vous allez toujours être en train de faire appel à quelque chose qui existe déjà, d'accord ? Qui est en dehors de vous. Et dans le numérique, en fait, finalement, encore une fois tout un discours sur le nouveau, l'innovation, etc. Mais plus vous regardez, en fait, plus vous êtes toujours en train de faire appel à des choses qui existent. Donc je voulais vous parler d'une recherche sur la question de folklore numérique et sur l'idée que tout ce que vous allez construire finalement autour d'un groupe de personnes qui va utiliser Internet, vous savez peut-être, tout le monde a peut-être avec vos potes ou avec les gens que vous connaissez, vous avez des habitudes sur Internet, vous commencez à partager des références, etc. Et ça crée bien sûr ce qu'on appelle souvent des communautés, mais qui sont finalement tout un tas de références communes que vous développez. Et donc dans cette idée-là, il y a tout un travail à faire, il y a toute une construction d'une culture commune. Oui. Donc de plein d'objets, notamment de plein d'images, de plein de choses qui sont comme un folklore, comme une nouvelle version du folklore, sauf que c'est du folklore numérique. Donc avec des contes, avec des légendes, avec tout un tas de choses qui reproduisent en fait plein de schémas qui existaient et qui font toujours appel à vos références culturelles. Donc là, vous savez, bon là, il y a tout le coup des chats. Le coup des chats, par exemple, dans l'Internet, c'est une référence qui revient tout le temps. Bon là, j'en ai mis plusieurs, mais c'est vrai que c'est une référence qui revient sans arrêt et à chaque fois qui est redéclinée pour faire appel à différentes personnes. Donc voilà, selon ce que vous voulez dire, vous allez mettre un chat. Et c'est quelque chose après qui est très utilisé dans la communication, notamment dans la communication politique, par exemple. Pas encore très très utilisé, je dirais, mais je sais que j'ai plusieurs... je ne sais pas ici, mais il y a des exemples dans la campagne d'Obama de 2012, où ils utilisaient plein de chats, des photos de chats avec en dessous écrit « likez la page », vous voyez, tac, comme ça, vous likez la page d'Obama, quoi. Avec quelque chose qui n'a complètement rien à voir. Mais si vous voulez, une méthode d'écrire qui est là pour capter votre attention, parce que vous connaissez ce truc de chat, vous connaissez ce truc de je ne sais pas moi, n'importe quelle photo que vous avez déjà vu passer, un espèce de mème comme ça qui traverse Internet. Donc vous utilisez ça pour capter l'attention. Donc ça, c'est un phénomène qui est commun aujourd'hui, et il y a de plus en plus quand les gens qui écrivent pour Internet ou qui font des contenus pour l'Internet, ils se basent sur ce genre de support. L'idée, au-delà de juste mettre des photos de chats, etc., de juste poster des trucs et juste de capter l'attention des gens, c'est aussi d'essayer de construire des références communes à des groupes de gens, d'accord ? Et c'est aussi ce que vous allez être chargé de faire si vous faites de la communication, ou même si vous, justement vous écrivez, ou vous êtes artiste, ou dans beaucoup de métiers finalement.
Chansonniers qui font des covers de Johnny Cash. Yeah! Mon poisson et mon manteau stir fini, je dans mes SPM, à tout ce que tu me dis. J'aime pas les tunes qui jouent à la radio, je trouve que j'ai gangé un kilo de trop. J'ai le gouvernement, puis j'ai pas de chum, puis l'issue de rencontre, je joue pas seul fun. J'ai un petit mal de gauche, puis je trouve ça un petit peu. Je vais mourir. Molly well j'ai pas de chum, laissé de rencontre, je joue pas ça le fun.
C'était Lisa Leblanc sur Studio ZEF 91.1 et l'excellent Chanson d'une rousse péteuse. On est de retour à l'école d'éthique de Blois pour cette dernière partie sur la conférence qui porte sur l'imagerie visuelle faite par Clément Renaud.
J'ai les chansonniers qui font des covers de Johnny Cash.
Alors, je suis parti en Chine à la fin de mon master, finalement, pour faire un projet qui était déjà un truc de visualisation de données dans un village de peintres à côté de Pékin. Je suis resté là-bas quelques mois, voilà, j'ai travaillé, on a créé un site, une application en ligne en fait, qui était autour des histoires de ce village, qui est un village un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais qui est en banlieue de Pékin, où il y a beaucoup de peintres, et puis il y a beaucoup d'usines où ils font de la peinture, des cadres et tout ça, donc c'est... Et puis finalement, après je devais rentrer en France et en fait je suis resté là-bas. Et donc je suis resté 6 ans en Chine. Et voilà, je suis rentré en France, ça fait 4 ans maintenant. Voilà, moi je suis revenu en France pour faire de la recherche, parce qu'en Chine c'était pas très évident, parce que moi je travaillais sur l'internet et les médias, mais avant, du coup j'étais resté en Chine pendant longtemps. Ouais, c'est un beau pays, une histoire, un grand pays. Puis ça m'a donné l'occasion aussi de travailler sur plein de choses différentes, de découvrir une langue, une culture, plein de gens, tout ça. Et donc voilà, quoi, je continue à beaucoup travailler avec la Chine. Je fais des résidences d'artistes, j'organise des résidences, j'envoie des artistes en Chine. Des Chinois qui viennent ici, je les accueille, voilà.
Pour une note plus personnelle, moi c'est quelque chose que j'ai été amené à réaliser aussi sur la dimension matérielle de l'Internet, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu en Chine. Et il y a une expérience assez perturbante quand on arrive en Chine, c'est que par exemple, si vous descendez de l'avion en Chine et que vous ouvrez votre ordinateur, si vous tapez facebook.com, l'ordinateur va vous répondre « cette page n'existe pas », alors que censément, vous la connaissez. Ou google.com n'existe pas, twitter.com n'existe pas, youtube.com n'existe pas, d'accord ? Parce que, tout simplement, depuis l'Internet, depuis la Chine, vous n'avez pas accès à ces sites, d'accord ? Donc le gouvernement a bloqué les sites, okay, vous avez des phénomènes similaires ici, il y a beaucoup de sites, par exemple il y a plein de sites chinois auxquels on ne peut pas accéder depuis la France. Mais voilà, donc si vous voulez, en tant qu'expérience de l'Internet, il y a une certaine matérialité, c'est-à-dire qu'à l'endroit où vous êtes, tout l'environnement, tout votre environnement numérique qui vous parlez permanent, les sites que vous utilisez, etc., En fait, finalement, ils sont physiques, ils sont écrits dans des paquets de terre, j'ai envie de dire, et ils sont localisés à certains endroits où on peut, à loisir, vous donner l'accès ou ne pas vous donner l'accès. D'accord ? Ça, c'est une touche plus générale.
Une partie de mon travail, c'est de la recherche. Je travaille avec des universités sur des questions plus théoriques. Après, moi, j'ai une activité de freelance, donc je fais pas mal de développement, de visualisation de données pour des clients, des contrats, etc. Et puis, j'ai plusieurs projets artistiques en parallèle qui sont autour de l'art numérique. À venir, ouais, il y a pas mal de choses. Dans l'immédiat, là, ce week-end, j'ai à Berlin pour présenter un livre dont j'ai écrit un chapitre avec un artiste dont je parlerai peut-être tout à l'heure, qui est autour du piratage, la question du piratage. C'est un livre qui s'appelle Le Pirate Book. Et donc voilà, moi j'ai fait un article sur le piratage chinois. Pour les projets à venir, je pense que je vais essayer d'écrire plus. Parce que c'est bien, c'est moins long que de dessiner. Enfin, en tout cas, on peut. Et donc voilà, quoi, voilà, essentiellement, je pense que ça va être ça.
Moi, en tout cas, j'ai fait les beaux-arts, après, je voulais être journaliste, et finalement, j'ai rencontré tout ce qui est développement informatique et technologie numérique un peu. Parce que déjà, j'aimais bien les jeux vidéo avant, mais aussi parce que à un moment, j'avais besoin, je voulais faire des blogs et des choses comme ça. Et finalement, c'est toujours quelque chose qui m'a servi, auquel je reviens toujours, en tant qu'outil, en tant que support de création et puis de discussion. Donc voilà, c'est juste une petite note, mais c'est, voilà, pour conclure, c'était un peu ce que je voulais dire. Je pense que c'est un... Même si c'est un peu, ça fait peur et on a l'impression que c'est des maths, mais c'est pas des maths, c'est vraiment... Ça ressemble plus quand même à des mots. Voilà. Donc, merci.
Vous venez d'écouter la conférence de Clément Renaud sur l'avenir de l'imagerie visuelle et on se quitte avec Golden Shine de I'll Be. Half past ten in the morning. There's something imminent in my head. I wonder how long I could switch it off and switch it off again. Get out of my bed, and then I watch my face in the mirror and try to recognize a friend. It's nice to see you again. Oh, it's better than nothing. And take off your golden chains. Oh, it's something you can't get in. Notion that I can't defend, and yet it's tough to play the part so hard and finally disappear from the scene. Move to the city, move in there, and find myself in another place. I swear that among the reason for losing confusion, I find a proper solution. Come back and then. It's nice to see you again. Oh, it's better than nothing. Take off your golden chains. Oh, it's something you can get in. It's nice to see you again. Oh, it's better than nothing, 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 nothing. Take off your golden chains. Oh, it's nice to see you again.